15h, 16h,
sans rendez-vous sur Europe 1. Anne Le Gall.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission bien-être et santé. Pendant une heure, nous allons vous informer, partager des conseils, échanger avec notre invité. Aujourd'hui, le dossier du jour est consacré à notre sommeil. Comment trouver le bon rythme? Faut-il mettre un réveil en vacances? Que faire si l'on dort mal depuis le confinement? Notre invité du jour, spécialiste du sommeil, va nous aider à répondre à toutes ces questions. Et pour m'accompagner tout au long de cette émission, le docteur Damien Mascret, médecin, journaliste au Figaro, est comme tous les jours dans ce studio. Bonjour Damien.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous allez nous parler de sexologie et de conseils pratiques pour la santé. Quel est le programme du jour?
Eh bien, côté sexo, on va parler du cœur pendant l'effort sexuel. Et pour les petits bobos de l'été, on va évoquer un incontournable de la saison, la transpiration.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Soyez les bienvenus dans votre émission santé, Sans Rendez-vous.
Anne Le Gall vous reçoit Sans Rendez-vous sur Europe 1.
Et l'on commence donc par évoquer ces petits bobos de l'été, ces événements qui peuvent nous surprendre parfois en vacances. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de maladie ni d'accident, mais d'un phénomène universel, assez banal, surtout l'été, mais qui devient aussi parfois un motif de consultation. C'est la transpiration. Et d'emblée, on a une question d'auditrice. Elle s'appelle Claire.
Du coup, en fait, avec les fortes chaleurs qui arrivent, là, je commence à me demander, en fait, pourquoi on transpire autant l'été? Qu'est-ce qui se passe?
Tout simplement parce que le corps doit rester à 37 degrés et le meilleur moyen qu'a trouvé l'organisme pour évacuer la chaleur en excès, c'est la transpiration. D'ailleurs, même quand vous ne faites rien, hein, la sudation commence dès que la température ambiante dépasse 30-32 degrés. Il y a des variations individuelles, bien sûr. Par contre, là, à partir de 35, tout le monde transpire. Évidemment, hein, l'évaporation se fait moins bien quand l'air est chaud et humide.
Et pourquoi c'est important d'évacuer cette chaleur?
Et bien parce que c'est la température de confort pour nos cellules, hein, 37 degrés.
On est programmé pour 37.
Ben c'est là que ça fonctionne le mieux au niveau enzymatique. On dit 37, en réalité pour 95% des gens, c'est entre 36,3 et 37,1. Mais bon, on va garder 37, hein, pour ne pas se noyer dans les chiffres. Alors il y a des variations au cours de la journée. En général, vous êtes au maximum, donc près de 37 en fin d'après-midi. Et puis vers 2-3 heures du matin, en revanche, vous êtes plutôt autour de 36,4 en été. Hein, et évidemment, comme notre corps fait tout pour maintenir à 37, ça veut dire qu'il se sent bien quand la température, ce qu'on appelle la zone de neutralité thermique, c'est-à-dire la température ambiante, est entre 27 et 31. Bien sûr, si vous êtes habillé, vous pouvez supporter des températures plus basses sans aucun problème. Le thermostat est dans le cerveau, mais la régulation se fait au niveau de la peau.
Pourquoi la peau? Parce que c'est notre contact avec l'extérieur?
C'est le contact avec l'extérieur et puis c'est surtout là qu'il y a le réseau de capillaires sanguins et l'organisme va jouer justement sur les capillaires sanguins. Il va faire varier le flux sanguin à notre cerveau. S'il y a besoin d'évacuer de la chaleur, il va dilater le réseau sanguin, c'est-à-dire qu'on va avoir une vasodilatation. Pour ça, bien sûr, il est informé, notre cerveau. Évidemment, il a des capteurs à la surface de la peau qui lui disent quelle température il fait dehors, mais il a aussi des capteurs à l'intérieur qui lui disent quelle température il fait dedans et c'est comme ça qu'il va réguler. Habituellement, à 37 degrés de température interne, ça veut dire que vous avez environ 33 à la surface de la peau, même 34-35 en ambiance chaude.
Et là-dessus, donc, quand il faut rafraîchir la peau, il y a la transpiration. Comment elle se fabrique, transpiration?
Elle se fabrique grâce aux glandes sudoripares. Il y en a 2,5 millions sur notre peau. La moitié, c'est le thorax et le dos surtout. Évidemment, c'est des grandes surfaces, donc ça permet d'éliminer beaucoup de transpiration. Alors, il y a quand même deux types de glandes sudoripares. Je le dis parce que vous allez voir, ça a son importance. Il y a les principales, c'est les glandes qu'on appelle écrines, parce qu'elles sécrètent un liquide qui est assez proche d'un filtrat du plasma. Donc, c'est plutôt inodore, ça. Voilà, quand vous transpirez dans le dos, c'est plutôt...
Elle se trouve où, celle-là?
En principe, inodore. Il y en a partout, sauf sur la plante des pieds, la paume des mains, mais sinon, il y en a vraiment partout. Et puis les autres, c'est les glandes sudoripares qu'on appelle apocrines, et celles-là, elles sont un peu plus ennuyeuses parce qu'on les trouve surtout...
Elles sont odorantes.
Elles sont odorantes, exactement.
Elles fabriquent de la transpiration odorante.
Qui est assez grasse, Donc, ça réagit avec les bactéries qui se trouvent à la surface de la peau, et ça, bien sûr, c'est les aisselles et les organes génitaux qui ont beaucoup de glandes apocrines.
Alors, est-ce que le corps peut évacuer la chaleur sans transpirer?
Alors oui, il y a ce qu'on appelle la radiation. Vous irradiez des rayons infrarouges. Si vous avez vu des films où on voit comme ça en infrarouge le corps de quelqu'un, eh bien évidemment le cerveau, les organes du thorax et de l'abdomen, en particulier les reins qui tiennent très chaud. Et quand on est assis simplement comme ça, sans rien faire, eh bien plus de la moitié de la perte de chaleur du corps se fait par ce mécanisme. Par contre, évidemment, ça ne suffira pas si la température est très chaude autour de vous.
Alors, Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on transpire trop, que ça devient un problème social, on va dire?
Alors, d'abord, je rappelle quand même pour les bébés qu'il faut les vêtir moins, parce que très souvent, quand il fait chaud, on voit des bébés qui sont trop couverts. Donc déjà, les bébés, ouais, on ne les couvre pas trop, ça c'est sûr. Et puis pour les adultes, eh bien, il faut bloquer la transpiration. Alors, en principe, on dit on ne bloque pas la transpiration parce qu'évidemment, il faut éliminer trop plein de chaleur.
Exactement.
Mais socialement, effectivement, sous
donc
les bras.
Donc pas d'antitranspirant, normalement?
Normalement, non, mais socialement, vous l'avez dit, ça peut être délicat, hein, évidemment. Donc dans ce cas-là, on peut éventuellement utiliser des antitranspirants, hein, des déodorants qui sont sous forme de billes ou de spray, souvent à base de sel d'aluminium. Ça va bloquer les glandes sudorales apocrines. Alors, c'est à éviter, évidemment, après une épilation ou un rasage. Et puis, on peut aussi préférer des produits plus naturels. Là, c'est à chacun de trouver ce qui lui convient.
Voilà. Et puis, pendant l'été, on peut aussi vaporiser un petit peu d'eau sur la peau, se baigner. Ça permet aussi de se rafraîchir.
On peut se rafraîchir aussi, mais attention, il ne faut pas que ça soit trop humide sur la peau, parce que justement, sinon, vous bloquez la transpiration.
Exactement. Mais se vaporiser un petit peu d'eau.
Oui, ça fait du bien.
Ça fait du bien. Merci beaucoup, docteur Damien Mascret. Europe 1. À suivre dans cette émission, le dossier du jour consacré aujourd'hui à notre sommeil. Comment peut-on profiter de l'été pour prendre soin de notre sommeil? Les grasses matinées sont-elles nécessaires? Le confinement a-t-il laissé des traces? On va répondre à toutes ces questions avec notre invité dans un instant.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Il est 15h11, vous écoutez Europe 1, votre émission Santé Bien-être continue. À mes côtés dans ce studio, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité du jour, bonjour Sylvie Royon-Parola.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes psychiatre, spécialiste du sommeil, présidente du réseau Morphée, réseau spécialisé dans la prise en charge de ces troubles du sommeil. Alors on va commencer avec vous par quelques repères, quelques chiffres. Les Français dorment désormais un peu moins de 7 heures par nuit en moyenne. Ils ont perdu 1h30 de sommeil en 50 ans. Redonnez-nous quelques repères. Combien de temps il faudrait dormir normalement au minimum ?
Chez l'adulte, les chiffres qui sont sortis dans les recherches, en colligeant un peu tous les travaux qui ont été faits sur le sommeil, montrent qu'il faudrait idéalement dormir entre 7 et 8 heures.
7 et 8 heures pour l'adulte et pour les enfants. Et
alors, pour les enfants, ça varie. Selon l'âge, les petits-enfants vont dormir 17 heures, 18 heures à la naissance. Ensuite, ça va diminuer progressivement avec des siestes qui vont disparaître aussi dans la journée. Ce qui fait qu'en gros, on peut retenir un chiffre qui est 10 heures à 10 ans.
D'accord.
Et puis après, ça diminue entre l'âge de 10 ans et l'âge de 18 ans. On diminue en général d'une heure, puis d'une autre heure à 18 ans.
10 heures à 10 ans, c'est facile à retenir.
Voilà.
Et vous nous confirmez que les petits dormeurs, ceux qui dorment moins de 5 heures par nuit, ceux-là, ils sont assez rares quand même.
Ah, moins de 5 heures, très rare. Mais
très
moins
rare.
De 6 heures, déjà, on parle de courts dormeurs. Mm-hmm. Eh bien, là, il y en a quand même un certain nombre. Alors, ce qui est difficile de savoir, c'est si ce sont de vrais courts dormeurs, c'est-à-dire qui spontanément ne dormiront que ce temps-là, ou des gens qui se mettent en privation de sommeil. Donc, dans les enquêtes épidémiologiques, c'est toujours compliqué de faire la part entre ce qui est vraiment de l'ordre du spontané et de l'ordre de la privation.
Damien Mascret.
Et est-ce qu'individuellement, on a un moyen de savoir soi-même si on est petit, gros dormeur, bref, de combien on aurait besoin? Parce qu'intuitivement, on pense le savoir, mais est-ce qu'il y a un moyen vraiment de le savoir?
Alors, il y a un moyen qui est intéressant justement au moment des vacances, parce qu'en vacances, on va toujours dormir un petit peu plus. On va dormir une heure et demie de plus que le temps qu'on s'accorde pendant la semaine en période de travail. Mmh. Et là, clairement, si vous êtes très court dormeur, vous n'allez pas bouger ou pratiquement pas bouger.
D'accord, donc on ne met pas de réveil et puis on regarde jusqu'à quelle heure
voilà,
on dort.
Voilà, enfin on dort, quoi. Enfin, on va se coucher quand on a envie, on se lève quand on a envie. Sous réserve qu'on n'ait pas d'enfants et de petits-enfants qui, eux, vont vous mettre une horloge qui va être très précise. Mais en vacances, c'est quand même le moment où, justement, on va se laisser aller et on va pouvoir profiter des horaires non contraints.
Alors, dans la nuit, il y a les phases de sommeil profond, qui est le sommeil le plus réparateur. Il y a le sommeil paradoxal durant lequel on rêve. Comment est-ce que tout ça s'organise dans la nuit?
Alors, il y a quelque chose de très, très intéressant sur l'organisation du sommeil, c'est justement le sommeil profond. Parce que le sommeil profond, que vous soyez court dormeur ou long dormeur, vous avez toujours la même quantité de sommeil profond qui est 100 minutes, enfin autour de 100 minutes.
100 minutes.
Oui.
Et c'est plutôt en début de nuit?
Ah, oui, c'est plutôt en début de nuit et ça change. Enfin, la physiologie du sommeil fait qu'on a des cycles en 4 à 6 cycles, hein, en moyenne. C'est des cycles d'une heure et demie. Et quand on s'endort, on va très vite aller en sommeil profond. Et puis ensuite, on va faire un tout petit peu de sommeil paradoxal dans les premiers cycles de la nuit. Et par contre, on a, en fin de nuit, après 3 heures du matin, on va avoir beaucoup de sommeil paradoxal et de sommeil léger.
Est-ce qu'il est, Damien Mascret,
on dit toujours est-ce que c'est vrai que le sommeil profond sert surtout à la récupération physique et le sommeil paradoxal qui contient les rêves sert à la récupération mentale, c'est caricatural?
Alors, c'est caricatural, c'est vrai mais caricatural. C'est-à-dire que le sommeil profond va quand même servir à certains apprentissages, y compris une certaine forme de mémoire, alors que le sommeil paradoxal, lui, c'est vrai qu'il sera beaucoup plus impliqué dans tout ce qui va être adaptation, mémorisation, humeur, enfin humeur au sens tristesse ou au contraire énergie, sur le plan psychologique, alors que le sommeil profond, ça va être plutôt de l'énergie en sens force physique, résistance, défense immunitaire notamment. Où là, il va y avoir des phénomènes au cours de nuit qui vont être un renforcement des défenses immunitaires et aussi une construction, une reconstruction des réserves d'énergie et vraiment spécifiquement sommeil profond.
Alors avec le réseau Morphée que vous dirigez, vous avez mené une enquête sur le sommeil durant
Absolument.
Le confinement
oui.
et il ressort qu'un Français sur trois avait moins bien dormi. Est-ce que vous avez été surprise par ces résultats ?
Oui, parce que en fait, globalement quand même, il y en avait 47% qui disaient qu'ils dormaient plus mal là et un tiers effectivement qui avait vraiment par rapport à leur sommeil des troubles ou d'endormissement ou de réveil, etc. Et ce qui est et qui était nouveau au cours du confinement. En fait, le confinement, ça a été une période très particulière. Pour certains, hein, pas pour tous, mais où la personne s'est retrouvée un peu isolée dans son appartement, sortant moins, s'exposant moins à la lumière, faisant moins de sport.
Et globalement, le sommeil, effectivement.
Toute chose qui régule le rythme veille-sommeil. Et du coup, on a observé un phénomène que l'on voit, enfin, en caricaturant là aussi un petit peu, que l'on voit dans les situations d'isolement temporel. C'est-à-dire quand on met quelqu'un sans connaissance de l'heure, etc.
Dans une grotte,
son sommeil va se modifier, va s'allonger un peu, mais surtout, il va avoir un rythme qui va se modifier un petit peu en se décalant plus tard, en s'endormant plus tard et
D'accord.
en se réveillant plus tard.
Et c'est ce que vous avez constaté.
Et c'est ce qu'on a constaté, absolument.
Et est-ce que ces troubles qui sont apparus, pour certains en tout cas, pendant le confinement, se prolongent aujourd'hui malgré le déconfinement ? Est-ce que vous avez vu des cas où des troubles nouveaux finalement sont apparus et persistent ?
Alors, pour certains, ça a été le début de troubles du sommeil. Pour d'autres, ça a été juste une période transitoire qui se corrige dès que la machine se remet en route et que l'exposition à la lumière est rétablie. En fait, on ne s'en rend pas compte, mais dans la journée, on est en fait, de manière, je dirais, naturelle, exposé à la lumière. Alors que quand on est dans son appartement et qu'on sort juste faire des courses, on n'est que 20 minutes dehors, quoi.
On a beaucoup parlé des rêves aussi pendant le confinement. Beaucoup de Français...
Les gens ont fait des cauchemars.
Voilà, on dit qu'ils se souvenaient davantage de leurs rêves, bons ou mauvais. Est-ce qu'il y a un lien entre rêve et qualité de sommeil ?
Alors oui, en fait, dès que les gens commencent à se souvenir de leurs rêves, et en général, j'allais dire trop de leurs rêves, ça devient gênant.
C'est pas bon signe ? Pourquoi ?
Non, parce que ça veut dire qu'on perçoit une activité qui, normalement, doit être complètement occulte pour l'individu réveillé.
D'accord.
Ça se passe, on rêve tous. Mais, quelque part, la fonction du rêve, c'est d'être oublié pour bien fonctionner.
Ça veut dire qu'on a eu des micro-réveils, peut-être, pendant la
nuit ? Ça veut dire que, probablement, la seconde partie du sommeil, puisque c'est à partir de 3-4 heures du matin qu'on va avoir beaucoup de rêves, était probablement micro-fractionné, oui.
Damien Mascret.
Oui, un de vos collègues experts du sommeil me disait que le rêve servait aussi à digérer les émotions et qu'effectivement, parfois, il y avait des indigestions. On voyait que quelque chose ne passait pas et que ça vous paraît pertinent comme métaphore.
Je pense que si les gens ont plus rêvé, c'est que quand même, globalement, il y a eu un niveau de stress lié à la situation. Pas qu'au confinement, le fait même d'être que dans une pièce ou dans un appartement, mais tout ce qui avait le contexte, la maladie, etc. Et donc, il y a pour quand même beaucoup de gens, ça a été générateur d'une anxiété plus ou moins ressentie, mais quand même bien présente quand on les interroge. Surtout qu'il y a toutes les conséquences que certains ont commencé à anticiper en se disant « mais qu'est-ce qui va se passer après ?» etc.
Dans un instant, on continue de parler de notre sommeil. Le docteur Sylvie Royan-Parola est en studio pour nous éclairer.
Europe 1.
Nous verrons dans un instant à quel point le sommeil est un allié de notre santé. Et puis, on va voir aussi comment on peut profiter de l'été pour en prendre soin. On se retrouve dans quelques minutes dans Sans Rendez-vous.
Sans Rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Sans Rendez-vous, c'est votre émission Santé Bien-être sur Europe 1. Autour de la table aujourd'hui, le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité, le docteur Sylvie Royon-Parola, psychiatre et spécialiste du sommeil. Nous parlons ensemble des effets du manque de sommeil sur notre santé. On entend parfois dire, docteur Sylvie Royon-Parola, qu'un bon sommeil, ça vaut 3 visites chez le médecin. C'est à ce point réconfortant, important pour notre santé.
Ah, c'est fondamental, tout simplement fondamental. Parce que quand on dort, en fait, on se régénère, on se reconstruit, on se rééquilibre. C'est vraiment la face cachée de notre vie, hein, mais c'est complètement, complètement fondamental. Imaginez que ça a des fonctions à la fois sur le système immunitaire, et puisqu'on est en période Covid, c'est quand même important. Hein. Ça, c'est pendant le sommeil qu'on reconstitue et qu'on consolide nos défenses immunitaires. Et la privation de sommeil, pour le coup, va très très vite entraîner un retentissement avec une baisse des défenses immunitaires. Ça rééquilibre tout le système cardiovasculaire. Donc si on ne dort pas assez, on va avoir un cœur qui va se battre trop vite, et c'est le lit de l'hypertension et des maladies cardiovasculaires. On va, si on ne dort pas assez aussi, prendre du poids, parce que c'est un régulateur métabolique qui fait que tout le système des hormones qui vont venir intervenir dans la régulation alimentaire se rééquilibre à ce moment-là, qu'on élimine bien les sucres, qu'on élimine bien les graisses,
donc ça,
qu'on
ne
stocke pas tout ça.
Voilà. Les liens entre sommeil et prise de poids. Là-dessus, il n'y a pas
photo. Oui. Alors, particulièrement chez l'enfant.
D'accord.
Chez l'enfant, c'est encore plus critique. Les enfants qui sont en privation de sommeil prennent du poids. Et puis, vous avez aussi des effets qui vont être sur l'humeur, qui sont très, très importants, parce que c'est ce qui nous permet, dans le sommeil, de récupérer une énergie psychique et un équilibre psychique d'une manière tout à fait fondamentale.
Il y a aussi des effets sur la mémoire, sur la concentration.
Alors, bien sûr. Et ça, c'est les effets quasi immédiats. C'est-à-dire que vous voyez très bien, si vous ne dormez pas assez, vous allez être somnolent le lendemain, vous allez avoir un déficit d'attention qui est tout à fait flagrant, avec bien sûr des fautes d'inattention, de mémorisation, et même parfois des erreurs qui vont vous conduire soit à faire des fautes professionnelles, ou avoir un accident sur la route.
Docteur Damien Mascret.
Oui, et puis la mémorisation, vous en parliez tout à l'heure, il y a un apprentissage parfois qui continue la nuit. Je me souviens avoir entendu un pianiste expliquer que quand il butait sur un passage d'un morceau, eh bien très souvent, curieusement, après une nuit, quand il se remettait au piano, il avait passé l'obstacle, comme si finalement la nuit, son cerveau avait continué à travailler. Donc les apprentissages, ce n'est pas que fixer
tout
la mémorisation,
fait.
On continue de fonctionner la nuit.
Oui, absolument.
Vous disiez que les enfants sont particulièrement vulnérables au manque de sommeil. Alors, on va passer au conseil pratique. Que faut-il dire aux parents qui ont du mal à faire dormir leurs enfants face aux enfants qui refusent d'aller au lit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit?
Ça dépend un peu du contexte. Si c'est un petit, je pense qu'il faut de toute manière habituer les enfants à éventuellement être au lit à une heure qui est normalement l'heure pour l'âge, et en demander à l'enfant d'être tranquille dans son lit. Alors peut-être en écoutant une petite musique, peut-être en feuilletant un livre pour les un petit peu plus grands.
Il faut des rituels.
Par contre, pas d'objets avec des écrans, parce qu'on voit des systèmes avec l'enfant qui se couche avec un film sur son téléphone. Alors ça, sur le téléphone des parents, ça c'est vraiment
oui,
pas du tout à faire.
Oui, parce que le film à la télé et le film sur le portable, c'est pas la même chose.
Surtout, il faut pas se coucher avec, que ce soit la télé ou le portable.
Et au niveau de la lumière aussi, ça
voilà,
fait pas la même chose.
Il y a un effet des écrans sur la perception lumineuse qui fait que ça mime en fait l'activité de la lumière directement, et ça stimule la rétine de la même façon que la lumière naturelle le fait, et du coup ça bloque la mélatonine, donc ça retarde l'endormissement. Mais en plus, pour un petit, si vous commencez à l'habituer à être avec un téléphone ou une tablette dans son lit, c'est dramatique. Et malheureusement, on le voit en consultation avec des parents.
Damien ?
Oui, alors vous parlez de la luminosité. C'est vrai que c'est souvent un débat parce que, alors certes, on le sait pour les tablettes, évidemment, que ça peut retarder l'endormissement. Mais il y a aussi un débat autour des veilleuses, parce que d'un côté, c'est un côté anxiolytique pour l'enfant d'avoir un petit peu de lumière. Les enfants n'aiment pas toujours le noir. Et puis d'un autre côté, on a des physiologistes qui nous disent non, mais il faut l'obscurité absolue pour bien dormir. Alors c'est valable chez l'adulte, chez l'enfant, chez les deux ?
Alors, en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est qu'il y ait une veilleuse que l'œil, même avec, au travers de la paupière, capte. Enfin, donc, si c'est une veilleuse sous le lit ou dans un coin, etc., ça fait une petite clarté qui ne va pas poser problème. Mais si vous avez une lampe qui va directement être perçue par l'œil, ça, ce n'est pas bon. C'est pas bon parce qu'en fait, on a montré que même des lumières très faibles vont jouer sur la mélatonine. Après, si vous voulez, globalement, il faut toujours faire la part entre ce qui est le plus gênant. Si vous avez un enfant qui est totalement terrorisé par le noir, il ne va pas dormir. Donc, de toute manière, c'est raté. Donc, il vaut mieux qu'il y ait une petite lumière qu'on aménage, etc. Et ceci étant, en passant, les parents qui mettent une veilleuse, il faut toujours qu'ils fassent attention et qu'ils se mettent dans la position de l'enfant pour regarder la pièce. Parce que parfois, vous avez des veilleuses qui vont faire des ombres. Mmh. Et les ombres peuvent être monstrueuses et très, très angoissantes pour l'enfant. Donc, y penser quand même.
Se mettre à la place de l'enfant, Damien Mascret.
Oui, par contre, chez l'adulte, on sait aussi que beaucoup d'adultes dorment dans une chambre avec une pollution lumineuse. Oui. Donc là, par contre, c'est pas bon.
Non, surtout qu'en plus, ce sont souvent des LED de chargeurs, notamment. Et là, c'est terrible parce qu'en fait, c'est une lumière quand même assez forte. Et on a montré que ça passait au travers de la paupière. Et notamment, il y a eu une étude qui date de plusieurs années maintenant. Chez les femmes sous tamoxifène, il y a un effet du tamoxifène qui se fait grâce à une combinaison avec la mélatonine. Et le fait d'être dans une atmosphère lumineuse faisait qu'elles répondaient moins bien au tamoxifène que les femmes qui étaient dans une atmosphère complètement noire.
Traitement pour le cancer.
Pour le cancer. C'est quand même, oui, c'est un traitement pour le cancer.
Contre, voilà. donc, on a bien compris que les nuits courtes étaient nuisibles pour la santé. Mais alors, quel conseil on peut donner à ceux qui travaillent en horaire décalé et qui doivent bien faire avec?
Vous nous avez dit qu'ils allaient grossir, ceux qui travaillent en horaire décalé.
Oui, il y a souvent plus de troubles métaboliques, donc des prises de poids, parfois des diabètes, et plus de troubles cardiovasculaires. Notamment, il y a eu très vieilles études, depuis très longtemps, on sait qu'il y a un retentissement cardiovasculaire chez les gens qui travaillent de nuit. Et ce n'est pas physiologique, ça c'est clair. On peut travailler le soir, on peut travailler tard. Il y a des gens qui sont du soir et à la limite qui vont trouver ça, un certain équilibre là-dedans. Mais toute la nuit, c'est un réel problème. Et l'organisme est quand même assez bien fait, c'est-à-dire que quand on tire trop sur la ficelle et que c'est pas possible, il va réagir et soit effectivement la personne va être trop fatiguée pour pouvoir vraiment continuer ce travail, soit elle va déprimer. Mais il faut savoir écouter ces signes-là parce que quand il y a ces signes qui apparaissent dans un travail de nuit ou un travail décalé, c'est qu'il faut arrêter, c'est qu'il faut changer. Et on a une médecine du travail qui aide quand même beaucoup dans ces cas-là.
On a encore beaucoup de questions pour vous, docteur Sylvie Royan-Parola. Comment profiter de l'été pour recaler son sommeil? Comment en finir avec les insomnies, avec, sans médicaments? On en parle dans un instant.
Anne Le Gall sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être. Et nous parlons aujourd'hui de notre sommeil avec le docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et notre invité en studio, le docteur Sylvie Royan-Parola, qui est psychiatre et spécialiste du sommeil. On parlait tout à l'heure du rythme décalé de sommeil depuis le confinement, chez les adultes, chez les ados également. Est-ce que les vacances sont une bonne occasion de dorloter un peu notre sommeil et de nous recaler?
En tout cas, de se recaler, ça va être plutôt de se mettre sur son rythme à soi
naturel.
Et de dormir le temps qu'on a envie et de faire aussi la sieste si on a envie. Enfin, je pense que c'est le moment de décrocher, mais parallèlement, ce moment de décrochage au niveau de tout ce qu'il y a à faire, des obligations, etc., doit s'accompagner de deux choses qui sont de profiter de la lumière, de sortir, de bouger et de faire du sport. Et si vous faites ces deux choses-là, votre sommeil y suivra à son rythme, sûrement un rythme différent de votre rythme de travail, mais vous serez plutôt dans une reconstruction et dans un apaisement. Et en tout cas, il faut oublier les contraintes, il faut oublier...
Donc pas de réveil.
Ah, pas de réveil, non, ça c'est scandaleux ça en vacances.
Damien Mascret.
Oui, et si on se réveille naturellement, est-ce qu'on se lève tout de suite?
Oui,
est-ce qu'on
oui, oui. Non, on par contre, effectivement, suivre son rythme, c'est... si on se réveille à une heure même tôt, qui paraît tôt pendant les vacances, il ne faut pas se dire que c'est parce que les vacances, on doit dormir jusqu'à 11h. Si on est réveillé à 7h, on se lève et on profite du lever de soleil, on prend un petit déj tranquille et on se met en route doucement.
Et, Et à l'inverse, oui, j'aimerais bien voir la réponse pour les ados et les adultes. La grasse matinée, c'est bien ou c'est pas bien?
Alors, spontanément, les adolescents ont plutôt un rythme qui a tendance à se décaler, hein, jusqu'à 20-25 ans. On a vraiment un sommeil entre... Ça commence à 12 ans, mais alors, à 15 ans, ça s'aggrave. À 18 ans, c'est le maximum.
Ils ont tendance à se lever plus tard.
Ils s'endorment plus tard, ils se réveillent plus tard. C'est vraiment biologique. Il y a une sensibilité à la lumière particulière qui va pousser la mélatonine et faire qu'on va se décaler. Mais pendant les vacances, du coup, comme il n'y a pas d'obligation du lever, ils vont avoir tendance à se décaler vraiment. Pendant les vacances, ils ont quand même 2 mois de vacances, donc on a un peu le temps. Mais il faudrait vraiment passer à la fin des vacances, c'est-à-dire que les 15 derniers jours, il faudrait à ce moment-là plutôt favoriser des activités où progressivement on va les amener à se lever le matin. Et ce qui marche le mieux, c'est de leur trouver un stage sympa ou de sport ou d'activité physique en tout cas, où ils vont devoir se lever assez tôt, mais avec une motivation et un intérêt. Parce que sinon, si vous dites à un ado de se lever tôt avant et qu'il n'a pas l'obligation, il va vous regarder en disant
ça va pas. On retient l'idée du stage sportif pour les ados à la fin de l'été, Damien Mascret.
Oui, à l'inverse, je pensais aux seniors. Plus on est âgé et plus on a tendance à se réveiller tôt. D'abord, est-ce que c'est vrai et est-ce qu'il faut s'en inquiéter quand on se réveille tôt, voire très tôt, parce qu'à un certain âge, c'est ce qui arrive parfois?
Non, c'est vraiment là aussi totalement physiologique. Après, c'est très lié au fait que le soir, il y a une absence d'interaction sociale et d'activité, enfin quand on est vraiment dans le grand âge, et du coup, ou alors même on s'endort devant la télé, etc., ce qui est catastrophique, et du coup, évidemment, on va avancer son sommeil. Il y a vraiment une avance de phase du sommeil chez les personnes âgées et très âgées, qui fait que donc on va se réveiller très tôt. En plus, on dort moins, on a besoin de moins de sommeil.
Pourquoi vous dites que c'est catastrophique de s'endormir devant la télé? Je pose la question pour mon père.
Parce que si on s'endort devant la télé, après les gens vous disent « oui, mais quand je vais me coucher, je ne m'endors pas ». Évidemment, puisqu'ils sont endormis avant. Il n'y a plus la pression de sommeil suffisante pour pouvoir s'endormir. Et on voit des gens âgés qui commencent à dormir mieux à partir du moment où la tablette ayant existé, se mettent à utiliser leur tablette le soir et du coup se décalent le soir. Ce qui est contre-indiqué chez l'adolescent, la tablette le soir, est complètement indiqué chez la personne très âgée.
D'accord. Alors, il y a 30 à 50% des Français qui disent mal dormir ou souffrir d'insomnie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, on a vu qu'on avait des petites solutions sans médicaments pour réguler son sommeil. À partir de quel moment est-ce qu'il faut passer au traitement?
Je pense que dès lors qu'il y a une insomnie qui dure depuis plus de 3 mois, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'insomnie chronique, il faut avoir un avis et consulter. La solution, c'est bien sûr pas de se précipiter sur les médicaments, mais bien souvent, quand on a des insomnies répétées, on va mettre en place des stratégies qu'on croit opérationnelles et en fait, on fait tout l'inverse de ce qu'il faudrait faire.
Par exemple ?
Comme par exemple, oh là là, j'ai pas dormi, donc j'ai pas dormi la nuit dernière, donc je vais essayer de rattraper ce soir, je vais me coucher un peu plus tôt.
Ça ne fonctionne pas.
Ah, ça fonctionne pas du tout, c'est pire que tout, ça entraîne la pérennisation de l'insomnie. Ou alors autre chose, c'est on se réveille très tôt, mais on se dit, oh ben non, il faut que je dorme, donc on reste au lit malgré tout, donc on est réveillé pendant 2 heures, et puis après on se rendort à 8h30, jusqu'à 10h, enfin si c'est le week-end. Et du coup, on casse toute la dynamique de la physiologie du sommeil. Donc, il faut vraiment garder un rythme extrêmement régulier, ne pas passer plus de 8 heures dans son lit, et même parfois même, il faut rester un peu moins. Et puis, faire une sieste, éventuellement, si on est fatigué, faire une petite sieste de 20 minutes. Mais en tout cas, pas essayer de dormir plus tôt et de rattraper le matin. Ça ne marche jamais.
Au moment des vacances, les apéros et les dîners sont parfois un petit peu plus arrosés que d'habitude. Quels sont les effets de l'alcool sur la qualité du sommeil?
Alors l'alcool, c'est vraiment un très mauvais ami du sommeil parce qu'en fait, ça facilite l'endormissement. Mais ensuite, ça donne un sommeil plus léger, plus riche en rêves ou en cauchemars d'ailleurs parfois. En tout cas, quand on a bu d'une manière excessive. Et du coup, la seconde partie de la nuit est extrêmement agitée en réalité. Et du coup, on se réveille fatigué, et d'où le terme de gueule de bois quand effectivement on a trop bu.
C'est de la fatigue.
Et c'est que le sommeil ne peut pas du tout rester stable et continu.
Quand vous dites pas d'alcool, ça veut dire même pas un verre d'alcool au repas, ou ça veut dire pas boire excessivement?
Non, c'est... Alors après, l'alcool, c'est comme les médicaments. Vous avez des gens qui en prennent régulièrement. Alors là, l'effet, finalement, ne pose pas de problème si c'est une consommation modérée, bien entendu. Et puis, vous avez des gens qui ne prennent jamais d'alcool. Donc, vous allez avoir quelqu'un qui consomme un verre tous les soirs. Il pourra passer à 2 verres, voire 3. Ça sera sans douleur. Ce n'est pas nécessairement recommandé, mais ça va pas entraîner de catastrophe. Mais quelqu'un qui ne boit pas et qui boit 2 verres le soir, c'est catastrophique.
Donc l'alcool avec modération aussi pour le sommeil. Merci beaucoup docteur Sylvie Royan-Parola d'être venue nous éclairer. On signale que les auditeurs peuvent retrouver une bonne partie de vos conseils sur le site du réseau Morphée ou sur votre site internet royan-parola.fr. Merci.
Merci.
Votre émission santé continue dans un instant avec les conseils d'un champion olympique pour booster sa motivation pour le sport cet été, et avec aussi la chronique sexo de Damien Mascret. A tout de suite.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Anne Le Gall.
Nous sommes donc ensemble jusqu'à 16h et nous sommes toujours en compagnie du docteur Damien Mascret, médecin et journaliste au Figaro. Et tous les jours, vers 15h40, nous parlons de mode de vie et d'habitudes personnelles. Aujourd'hui, c'est un champion multimédaillé qui est en ligne avec nous pour parler de la motivation pour le sport. Bonjour Yannick Agnel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes double champion olympique de natation et directeur sportif d'une équipe de e-sport, la MCES. Alors aujourd'hui, c'est vous notre coach. C'est à vous qu'on demande de nous suggérer 3 idées, 3 clés pour nous motiver à faire du sport cet été. Vous nous dites quoi ?
Oh ben, loin de moi l'idée de vous donner des choses assez techniques. Je pense qu'on peut en trouver énormément... dans tous les cas, sur Internet ou avec d'autres gens qui s'y connaîtront bien plus que moi. Je pense que la première chose, et notamment pour ceux qui auront la chance d'aller exposer leur corps et de se mettre un peu à la plage, se dorer la pilule cet été, ce sera plutôt d'arriver à accepter son corps. Parce que je sais que souvent, pour pas mal de personnes, dont notamment des anciens champions olympiques qui ont pris un peu de poids
et qui doivent
des noms, voilà,
qui ont les abdos un peu plus cachés qu'avant.
Quand même, ça doit aller.
Non, mais la réalité, c'est que le regard des gens, et souvent, on a tendance à surestimer le regard des gens, alors que la plupart du temps, eh bien, ils sont contre-foot et on se met des barrières, alors que je pense que la première étape vers justement l'activité et l'acceptation de son corps, c'est tout simplement de se rendre compte que on est bien tel qu'on est, et que voilà, on a tous nos imperfections et que ça démarre de là. Donc, ensuite, la deuxième étape, ce serait de pratiquer de l'activité physique un tout petit peu au moins chaque jour.
Ça veut dire combien de temps?
Oh, ben ça peut être peut-être 10 minutes, 15 minutes même, minimum. Tant qu'on en fait un tout petit peu chaque jour, mieux vaut 15 minutes par jour que 2 heures une fois par semaine.
D'accord.
Véritablement, l'idée, c'est de rentrer, d'incrémenter un petit peu une discipline comme ça, où petit à petit, on va se sentir à l'aise dans son corps. Et ça va nous permettre ensuite, eh bien, si on se sent bien à 10 minutes, de faire 15, 20, 25, 30. Et puis après, pourquoi pas... plus encore. Donc je pense que ça, c'est vraiment intéressant dans la mesure où ça crée encore une fois une discipline. C'est bon pour le corps et bon pour l'esprit. Ça libère des hormones qui plus est très agréables et qui nous permettent de gagner en stabilité dans notre quotidien. Et du coup, un troisième point, ça serait, et là ça s'adresse plutôt aux gens qui sont disons un petit peu coincés dans les villes, parce qu'on va avoir un été un petit peu particulier dû notamment au virus, de préférer tout ce qu'on peut faire à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture.
Donc mettre du parfois... sport dans le quotidien, en fait.
Oui, totalement. Alors, évidemment, ce n'est pas du sport, on parle plutôt d'activité physique, mais vous savez, ces fameuses zones bleues, les endroits où les gens vivent le plus longtemps sur la planète.
Exactement, il y a eu des reportages.
Oui, tout à fait. Mais on s'est rendu compte d'un truc, c'est qu'en fait, ils vivent tous dans des endroits qui sont relativement, quand même, pour la plupart, escarpés. Et donc,
Ils marchent
plus. Ils
doivent
le faire beaucoup papier. Ouais. Donc, il y a quand même un lien de causalité fort. Et la réalité, c'est qu'on surestime souvent l'énergie que ça va nous prendre par rapport à ce que ça peut nous procurer d'effectuer un trajet à pied ou à vélo plutôt que de le faire en transport en commun ou en voiture. Alors, bien évidemment, dans la limite du possible, dans la limite du faisable. Mais je sais que, par exemple, je vais rester pas mal de temps à Paris. Et d'arriver à redécouvrir la ville à vélo ou à pied, ça permet de s'aérer la tête, en plus de se faire du bien à son propre corps. Quoi.
Donc on retient vos trois conseils de champion, Yannick Agnel, savoir accepter son corps, faire du sport régulièrement, surtout même 10 minutes par jour, et puis remettre de l'activité physique dans notre quotidien. On a une question de Damien Mascret pour vous.
Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à la quantité. Vous avez dit 10-15 minutes quotidien, c'est bien. Quand on se sent bien et qu'on avait prévu de partir 10 minutes et que finalement on fait 20, 30, 40, 50 minutes, c'est bien ou faut mieux éviter en rester à ce qu'on avait convenu au départ?
Alors ça dépend là où on en est. Si il faut commencer et qu'on commence de absolument rien, je pense qu'il faut se tenir à ce à quoi on s'était fixé au départ. L'idée, c'est de ne pas être en surmenage ou d'en faire trop et puis de se dire, un peu comme avec les médicaments, vous savez, si j'en prends deux ou trois, ça va compenser le fait que je ne l'ai pas pris hier ou quoi que ce soit. Ça ne marche pas comme ça. Le sport, c'est exactement comme les médicaments, c'est à dose entre guillemets prescrite, ou en tout cas au départ, il ne faut pas trop en faire parce qu'on risque derrière de se faire mal ou de ne plus en avoir envie. Et le but, c'est justement d'en faire suffisamment peu pour se redonner envie chaque jour d'y retourner.
Ouais, d'accord. J'espère que ma femme écoute.
Du sport pour se faire plaisir. Merci beaucoup Yannick Agnel pour vos conseils en direct dans 100 rendez-vous. Très bel été à vous.
Europe 1, sans rendez-vous. Anne Le Gall.
Votre émission santé continue dans un instant avec la chronique sexo de Damien Mascret. Au programme, Damien.
Éviter l'infarctus en faisant l'amour, tiens.
Europe 1, Anne Le Gall.
Vous écoutez Sans Rendez-vous, votre émission Santé et Bien-être de 15h à 16h. Et dans cette dernière séquence de l'émission, nous parlons relations amoureuses avec vous, Damien Mascret. On rappelle que vous êtes médecin sexologue et on évoque aujourd'hui les risques du sexe pour le système cardiaque.
Oui, parce que le sexe, effectivement, c'est une activité physique. Hein, et comme toute activité physique, ça augmente, en tout cas pendant le temps où on fait cette activité, légèrement le risque d'infarctus. Alors modérément, hein, je vous rassure, on considère que vous allez avoir un risque qui va être augmenté, qui va passer à 0,2%. Hein, ça, c'est des statistiques qui avaient été faites en Europe, notamment. Et puis même quand on prend des autopsies, au Japon, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, ils ont pris des autopsies avec des morts subites. Ils ont regardé sur plus de 5500 autopsies. Il n'y en avait qu'une petite trentaine qui étaient au cours d'actes sexuels. Et ce qui est quand même à noter, c'est que ces actes sexuels avaient lieu très souvent avec des partenaires extra-conjugales. Donc là, quand on est dans les partenaires, je dis partenaires extra-conjugales au féminin, parce que 9 fois sur 10, c'était des hommes, effectivement, qui avait une maîtresse et qui, à ce moment-là, avait ses morts subites. En tout cas, c'était au Japon, c'était le cas.
Parce que ça augmente le risque, en fait. Il y a un stress supplémentaire.
Alors souvent, exactement. Vous avez des hormones de stress qui augmentent le risque de troubles du rythme cardiaque. Et puis, d'autre part, on a aussi une intensité de l'effort qui peut être un peu plus intense.
Oui, parce que l'acte sexuel n'est pas un effort aussi important d'un point de vue physique.
Alors, bon, ça dépend. Hein. Ça dépend des couples.
Parfois, on compare avec le nombre d'étages qu'il faudrait monter à pied. Vous dites combien d'étages, vous?
Alors, moi, je dis ce que disent les cardiologues. Les cardiologues français, notamment, nous disent, ils font la distinction, nous disent que c'est l'équivalent de monter 2 étages à bonne allure. Mais si vous êtes avec votre maîtresse, votre amant, c'est 2. Non, c'est 3. Voilà,
3
un étage de plus si vous êtes dans une aventure extra-conjugale. Donc, vous voyez qu'il y a des... Mais c'est vrai que le rythme cardiaque va s'accélérer. Hein. Votre pouls va battre à 130. La tension va augmenter un petit peu. Enfin, peut même monter jusqu'à 17, voire plus, hein, au moment du plaisir. Donc, c'est vrai qu'il y a un effort particulier pour le système cardiovasculaire. Mais c'est justement ce qu'on recherche. Et c'est justement pour ça que les cardiologues recommandent l'activité sexuelle. Parce que même si ça augmente transitoirement le risque d'infarctus, comme toute activité physique, par contre, quand on a une activité physique régulière, même hors du lit d'ailleurs, eh bien, on a un risque qui est réduit de faire des accidents cardiovasculaires. Donc évidemment que là, on est dans la bonne configuration. Donc, ayez une activité physique en dehors du lit, ayez une activité physique au lit, les risques sont quand même très limités.
Mais il y a peut-être des précautions particulières à prendre quand on a un terrain de maladies cardiovasculaires ?
Oui, il y a des populations population qui doit faire attention, comme on dit. Hein, si vous avez effectivement, alors je l'ai dit, si vous avez des problèmes cardiovasculaires qui sont stabilisés, c'est très bon. Si vous avez des difficultés cardiovasculaires qui ne sont pas stabilisées, une hypertension qui n'est pas bien contrôlée, qui n'est pas revenue à la normale, si vous avez des troubles du rythme, là aussi, qui sont mal contrôlés, si vous êtes dans les suites d'un infarctus, mais alors attention, là aussi, dans les suites d'un infarctus, ça va très vite, la reprise de l'activité sexuelle, en principe. Évidemment, ça va avec votre médecin. Mais si vous avez fait un infarctus et que votre bilan fonctionnel est bon, eh bien une semaine après, on considère que vous pouvez reprendre une activité. Alors soyez peut-être l'agent le plus réceptif et l'autre le plus actif, mais c'est parfaitement possible. Et puis attention aussi, dernier point, parce qu'on sait que c'est parfois un âge où on fait des infarctus, où on a besoin parfois d'utiliser aussi des médicaments pour l'érection.
Voilà. Quand on prend des petites pilules, voilà, pour favoriser l'érection, ça augmente le risque.
Alors non, c'est plutôt des pilules qui sont bonnes pour le cœur, mais par contre, elles sont contre-indiquées, par exemple, dans les 6 semaines qui vont suivre l'infarctus. Hein, donc, il faudra attendre un petit peu. De toute façon, de façon générale, on ne prend et n'arrête d'ailleurs un traitement cardiovasculaire jamais sans l'avis du médecin. Il est parfaitement à même de vous répondre, y compris sur le plan de la sexualité. Ça fait partie de la santé globale.
Ça fait partie de la santé globale, on l'a bien noté. Merci beaucoup, Damien Mascret. Les meilleurs conseils pour votre bien-être et votre santé, on les partage tous les jours de 15h à 16h dans 100 rendez-vous sur Europe 1. Demain, nous parlerons de chirurgie esthétique et nous verrons s'il faut y recourir ou pas. La question se pose, pas certains hésitent à franchir le pas. Et vous nous parlerez aussi, Damien,
des gastro
demain,
de l'été.
Des gastro, il y en a aussi pendant l'été.
Et oui, il y en a.
Merci beaucoup, Damien Mascret.